Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Christelle.
Merci d'être l'invitée du balado Les Permaculturels pour essayer de mettre en lumière les femmes en permaculture au Québec. Je voulais tout d'abord te demander de te présenter.
J'ai toujours rêvé de vivre en autonomie. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Et puis, en voyageant, j'ai vu des problèmes liés à l'agriculture, à l'alimentation, à des gens qui ne mangeaient pas à leur faim. J'ai étudié en agriculture biologique à Victoriaville en l'an 2000, d'un retour de 2 ans au Guatemala. Et puis, je me suis rapidement aperçue que l'agriculture, même si elle était bio, l'agriculture industrielle et tout, n'était pas pour moi, où je voyais quand même certaines problématiques. Donc, de manière instinctive, je me suis virée vers les buttes permanentes, vers autre chose de la permaculture. Mm-hmm. Et puis, c'est me retrouvant sur une ferme, gérante sur une ferme de permaculture, tout à fait par hasard comme ça au Mexique, à un moment donné, qu'il y a eu une formation d'un PDC, je me suis aperçue que tout ce qu'il enseignait, je le faisais déjà de manière, ben pas tout, là, mais une grosse partie de ce qu'il enseignait, je le faisais de manière logique, de manière normale, de manière évidente. Copier la nature est pour moi une évidence parce que Mère Nature a pas mal plus d'expérience que les humains pour faire pousser des choses.
Alors juste pour nos auditeurs et nos auditrices, un PDC, c'est quoi?
C'est un cours de design en permaculture. Mm-hmm. Un cours de design en permaculture, c'est designer, c'est faire un plan, dans le fond. C'est planifier, mais en planifiant, en pensant à tout, à notre environnement, le vent, la pluie, le froid, le chaud, le sol, l'humain, l'animal. On essaye de tout mettre dans un beau grand cercle et on essaye de faire un dessin. Donc, tu n'iras pas planifier de mettre ton jardin sur l'autoroute de Chevreuil.
Très pratico-pratique. Et donc là, tu parlais, tu étais donc au Mexique. Tu as fait ce cours qui dure 72 heures. Enfin, c'est un cours...
10 jours.
10 jours. Mais tu es au Québec, t'es québécoise, donc quelle est la suite?
Oh, ben après ça, je veux dire, j'ai travaillé 10 ans en Amérique latine et Asie. Mm-hmm. Puis après mon cours, j'ai fait plusieurs formations spécifiques, beaucoup sur la forêt comestible, parce que je croyais jusqu'à récemment que les arbres allaient survivre, tout ce qui était vivace allait avoir beaucoup plus de facilité à s'adapter au changement climatique, mm-hmm, que les annuels. Et puis, j'ai changé mon idée, là, pas longtemps, là, avec les grosses crises des dernières années, là. Mm-hmm. Là, ça fait comme, OK, non, c'est les vivaces, ils ont de la misère à s'adapter. Ça va être plus les annuels qui vont s'en sortir, mais bon. mais je suis toujours dans une optique d'autonomie alimentaire. Mm-hmm. Donc, j'ai travaillé pour des ONG ou des propriétaires privés aussi, là, de fermes quelconques, pour les aider à améliorer leur production. Mm-hmm. Puis pour les ONG, c'était de l'autonomie alimentaire dans l'Amazonie bolivienne, dans l'Amazonie colombienne, pour que les gens ils puissent s'adapter au changement climatique et produire plus d'aliments. Et puis j'allais beaucoup sur la forêt comestible, j'allais beaucoup sur les vivaces pour recréer l'habitat ancien, mais avec plus de plantes nourricières, tout en mélangeant des plantes locales pour l'adaptation, là. Mm-hmm. Et puis en gestion de l'eau aussi, parce que c'est beaucoup le désert. On parle de l'Amazonie comme le poumon de la terre ou comme la place où il pleut beaucoup, mais non, je veux dire, il pleut énormément en 3 mois. Le restant de l'année, c'est du désert. Il mouille, mm-hmm, pas, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas une goutte de pluie. Ça dépend t'es où, là, mm-hmm, mais moi, je me retrouvais, c'était beaucoup ça, donc parce qu'il n'y avait plus d'arbres. C'était une Amazonie plus d'arbres, donc il ne pleut plus, le cycle de l'eau et tout. Et puis les gens, on s'aperçoit que les gens, ils ne connaissent pas leur environnement, comme n'importe où, là. Mm-hmm. Les gens ont bien beau être collés à la nature. On parle souvent des enfants de la ville qui ne savent pas où poussent leurs légumes, mais moi, j'ai comme... je mets ça un petit peu... c'est une parenthèse qui m'a fait sourire et réfléchir beaucoup. Je travaille dans des jardins communautaires et puis la semaine dernière, j'ai une nouvelle personne au jardin qui vient d'arriver et puis elle a désherbé la planche de fraises en, mm-hmm, fleurs. Donc, une personne locale qui vit dans un village toute sa vie dans la nature ne sait pas reconnaître un plant de fraise en fleur.
À savoir que la fraise sauvage existe au Québec, donc c'est même pas une plante d'ailleurs. Elle a côtoyé quelque part cette plante.
Oui, fait que moi, pour moi, c'est un signe que l'humain est déconnecté de son environnement et pas uniquement les humains de la ville, les mm-hmm. humains de la campagne aussi
mm-hmm.
ne connaissent pas leur environnement.
On va arriver petit à petit au Québec et en Gaspésie où tu te trouves maintenant. C'est ton habitat, puis il se passe plein de choses. Avant, je voulais quand même te demander, pour toi, la permaculture, c'est quoi? Si on devait la définir à quelqu'un qui découvre, qui écoute ce balado, tu définirais la permaculture comment?
Souvent, quand les gens me posent cette question-là, il faut que je réponde tellement vite en une phrase parce que sinon, après ça, ils sont déjà partis ailleurs.
Uh-huh. Là, tu peux prendre trois phrases parce que, bon, si bon. Quelqu'un écoute...
la majorité des gens connaissent l'empreinte écologique.
Mm-hmm.
La permaculture, pour moi, c'est d'avoir une empreinte écologique qui est positive, au pire, neutre. Sur la planète.
Mm-hmm.
Donc, ce n'est pas uniquement l'alimentation. L'alimentation est importante. On mange trois fois par jour.
Mm-hmm.
On est chanceux ici, on mange trois fois par jour.
Mm-hmm.
Mais c'est aussi notre façon de vivre, notre habillement, notre transport, notre maison, nos relations humaines. C'est tout, toute notre vie, tout ce qu'on fait à chaque instant de notre vie peut être... Peut être néfaste ou positive ou voire neutre des conséquences sur la planète.
Mm-hmm.
Donc, la planète, moi, quand j'inclus la planète, c'est animal, végétal et humaine
mm-hmm.
Entière. Donc, fait que c'est tout ça, la permaculture.
Ah, merci. C'est une façon comme une autre j'adore, en fait, poser cette question parce que j'ai jamais les mêmes réponses. Donc, ça permet de voir les visions et les diverses visions. Puis, très concrètement, aujourd'hui, tu vis en Gaspésie. Et qu'est-ce que tu fais en Gaspésie en lien avec la permaculture? Tu es très impliquée.
J'essaye, parce que ma mission de vie à moi, c'est de partager, d'apprendre d'une main et de donner de l'autre.
Mm-hmm.
Donc, quand j'étais en Amérique latine, c'est ça que je disais, je ne suis pas la blanche qui arrive de l'extérieur avec toutes mes bonnes idées. Moi, parmi vous tous, je vais apprendre et je vais les donner, je vais donner ces connaissances-là à quelqu'un d'autre, peut-être ton voisin, peut-être juste quelqu'un de l'autre bord de la frontière ou ailleurs. J'apprends et je redonne.
Mm-hmm.
Fait que je fais la même chose ici. J'adapte mes connaissances au climat froid.
Mm-hmm.
De la Gaspésie. Et puis, je travaille présentement, je vis dans la baie des Chaleurs.
Mm-hmm.
Je travaille présentement pour un organisme communautaire. J'en charge de trois jardins communautaires. Donc, j'aide les jardiniers, les jardinières à produire plus sur leurs petits lopins
mm-hmm.
de terre. J'essaie de leur montrer le plus de trucs possible ou les aider. Puis pour beaucoup d'eux autres, c'est je suis comme un aimant. Quand je suis présente dans le jardin, bien, ils viennent tous puis, et toutes. Et puis pour eux, ça leur fait un moment social aussi.
Mm-hmm.
Parce que la permaculture, c'est aussi le côté social.
Uh-huh.
Hein? Fait que je réponds à leurs questions. Je donne des ateliers selon leurs besoins, leurs nécessités. Et je leur montre des choses bizarres, vraiment bizarres. Comme quand t'enlèves tes mauvaises herbes, t'es jettes pas à poubelle. Ou bien, ça serait bien de couvrir le sol,
uh-huh.
hein, de ne pas tourner le sol. Et puis, il y a un vieux rotoculteur dans le cabanon, puis je ne l'utilise jamais. Je t'avais de le mettre en vente ou de le mettre à donner ou je ne sais pas. T'sais. Puis, comment ça que je n'utilise pas ça? Je montre des choses bien bizarres. Mais il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui essayent, il y a des gens... et puis, bon, c'est le respect de tout le monde aussi.
Mm-hmm.
Puis ceux qui veulent avoir des connaissances, même chez eux, ben je leur donne un coup de main. Et puis ici, à l'École de permaculture, bien, je dis ici parce que nous sommes présentement à l'École de permaculture.
Tout à fait. Je t'interview ici. Merci.
Fait qu'à l'École de permaculture de Val-d'Espoir, bien, je m'implique aussi pour donner un coup de main comme spécialiste, donner quelques cours, ceux que je suis capable de donner. Et puis suivre les cours des autres aussi pour continuer à apprendre, pour mieux redonner par la suite.
Et d'ailleurs, par rapport au climat gaspésien, alors je sais qu'il y a des climats gaspésiens. Tu décrirais la Gaspésie comment par rapport au reste du Québec? Ça serait quoi ces spécificités?
T'as le bon bord puis t'as le mal bord.
OK, allons-y.
Moi, je vis du bon bord, qui est la baie des Chaleurs, parce que dans la baie des Chaleurs, on a la baie des mm-hmm. Chaleurs qui est un immense capteur de chaleur.
Mm-hmm.
Donc, l'eau capte la chaleur, mais au printemps, ça prend du temps avant que cette cette captation d'eau-là se fasse, ce qui fait que au printemps, il fait froid très longtemps. On va commencer à avoir de la chaleur, là. Puis là, je parle sur le bord de l'eau, mm-hmm. parce que là, quand on s'en va dans les terres, on monte. Donc, sur le bord de l'eau, c'est du 4A, 4B, mais moi, je considère qu'au mois de juin, c'est du 3, puis ouais. peut-être que c'est du 4A au mois d'août, t'sais? Mm-hmm. Okay. Septembre. Parce qu'en automne, l'eau de la baie, elle s'est réchauffée. Donc, on entend des gelées dans le centre du Québec. Puis chez nous, ça n'a pas gelé. Mm-hmm. Chez nous, l'année passée, ça a gelé au mois de novembre. Donc, c'est très... On est comme déphasé, là. Très froid au printemps, mais chaud beaucoup plus longtemps. Mm-hmm. Ça, c'est sur le bord de l'eau. Mm-hmm. Puis après ça, dans les montagnes, tu te fais 10 minutes dans les montagnes puis tu viens de tomber en zone 3, là. Mm-hmm. C'est rapide. Fait que ça, on le voit pas sur les cartes, là, mais c'est la réalité. C'est, tu vois qu'est-ce qui pousse, tu vois la température. Puis les montagnes, ça dépend de quel côté de la montagne que t'es. Il y a des côtés qui va pleuvoir, l'autre côté, il va grêler. Ça dépend où ce que t'es. Puis là, t'as le Malbaie. Là, le Malbaie qui est tout le côté nord de la Gaspésie, où ce que là, c'est l'entrée du fleuve. Ça, là, il vente tout le temps et c'est très, très, très froid. Et puis ça, je pense que c'est une zone 3 ou même 2 à l'année, là. Tu sais, c'est... Mm-hmm. Ben, ouais. À l'anime. Parce que la baie, le fleuve, il coule tout le temps, ce qui fait qu'il n'y a pas d'accumulation de chaleur qui s'effectue. Mm-hmm. Donc, eux autres, c'est, je leur lève mon chapeau. Il y a beaucoup de producteurs, de petits producteurs bio de ce côté-là qui sont capables de se retrouver dans, entre deux montagnes puis de se trouver un petit coin là, de chaleur. Là, tant mieux pour eux. Là.
Que dans la baie des Chaleurs, est-ce qu'il y a de la production aussi? Est-ce qu'il y a des petits producteurs ou moins?
Oui, quand même. On a plusieurs producteurs bio qui vivent de manière permaculturelle, hein, mm-hmm. qui vivent en s'entraidant. Fait que ils font des achats communs d'intrants, ils font des achats communs de puis ils vendent chacun ont leur panier de légumes. Et en hiver, en plus de ça, il y a un réseau qui s'appelle la Baie des Saveurs. Mm-hmm. Donc sur la Baie des Saveurs, tu retrouves tous les producteurs bio que tu fais ta commande et puis après ça, eux autres ils partagent. Fait que je peux manger du pain qui a été fait par la cigale et la fourmi qui est dans Carleton. Puis je vais le manger, moi, situé, mettons, à Hope, parce que en hiver, pour le réseau qu'ils se sont fait ensemble. Donc, ils ont décidé de s'entraider. Fait que c'est génial.
Ben oui, et puis c'est quand même un enjeu, parce que la Gaspésie, on va dire que c'est loin des grandes villes, si j'ai le droit de le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est mal pris de le dire comme ça. Et puis, il y a peu de population sur une grande étendue de terre. Donc, j'ai la sensation, en venant ici, à chaque fois de voir vraiment une mentalité de collaboration que j'associe peut-être à tort au fait que la densité n'est pas grande, que c'est des régions, entre guillemets, un petit peu éloignées de Québec ou de Rimouski, etc. Mais tu penses que l'un et l'autre sont connectés? Tu verrais ça comment?
Ça dépend des villages. Mm-hmm. Moi, j'ai mes jardins communautaires dans 3 villages collés, un à côté de l'autre, et c'est 3 mentalités totalement différentes.
OK.
Totalement différent. Je connais moins les autres villages, je dirais. Ça pointe, là, j'habitais à Prével un bout, puis à Douglastown, il y a une belle mentalité de collaboration aussi, il y a des bons groupes. Ça dépend des endroits, mais je dirais que mon évaluation personnelle dans la baie des Chaleurs, dans le village de Bonaventure, que je ressens plus de collaboration, plus une vie sociale riche et tout, mais ça vient parce que l'origine, c'est les Caïens, les Acadiens qui sont encore là, un peuple très, très, très accueillant, très vie collaborative ensemble, très partage, très... Donc, les descendants des Caïens, ils l'ont encore dans le sang. Fait que moi, j'aimerais ça que la société cayenne m'adopte. mais bon, ça dépasse un peu plus ça, mais il y a ça aussi. Il y a plusieurs communautés anglophones qui se mélangent très peu aux communautés francophones.
Okay.
Entre elles, est-ce qu'elles ont partage? Je sais pas. Mais c'est ça. Puis il y a d'autres communautés que c'est le contraire, que les gens vont tout faire pour éviter les autres. T'sais.
En termes de... de techniques en permaculture. Je sais que tu côtoies les jardins, tu dois réfléchir à ces fameux intrants, ces extrants. En permaculture, on réfléchit énormément à essayer d'utiliser les ressources locales. Quelles sont les spécificités que tu pourrais nommer comme ça, quelques exemples très pratico-pratiques qu'on verrait moins dans le reste du Québec et qui sont assez vrais par rapport aux ressources qu'il y a ici et à votre réalité, entre guillemets, d'éloignement et climatique.
Des fois, je fais un bon lien avec mon 10 ans en Amérique latine, loin de tout, ce que tu dois tout créer toi-même parce que tu peux rien acheter, parce que tout est trop loin puis tout est inexistant. Je le revis un peu ici aussi, là. Retrouver des produits bio ou des produits alternatifs, surtout pour l'agriculture, là, il n'y a pas grand-chose, là. Vraiment, là, tu sais, il y a un centre jardin, là, qui est à 2 heures de chez nous, là, puis où est-ce que je peux retrouver des produits alternatifs. Sinon, bien, il y a le Canadian Tire, puis, tu sais, il y a pas grand-chose. Et puis, tout est loin et tout est cher aussi, parce que c'est de transport pour s'en venir. Fait qu'on regarde, puis ici, c'était une terre, avant, il y avait beaucoup d'agriculture, il y en a de moins en moins. Donc, trouver de la paille, c'est pas évident. Surtout sur la pointe, ici, on regardait à Val-d'Espoir, là, de la paille, il y en a plus. Les producteurs qui en faisaient avant, ils ont arrêté. Donc, il nous reste du foin. Le foin, c'est plein de mauvaises herbes. Fait, comment qu'on fait, mettons, pour pailler ou pour, on dit pailler, ou mettre du paillis sur notre sol? Fait, qu'est-ce qu'on a sous la main qu'on n'a pas à chercher loin? Bien, il y a la mer. Les ancêtres faisaient ça. Je crois que les connaissances ancestrales sont importantes à aller chercher, mais il faut les adapter avec les connaissances actuelles, connaissances scientifiques actuelles, puis parce qu'il y a des choses qui s'oublient en chemin. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de... la petite fille qui dit à sa mère, « Maman, pourquoi tu coupes les pattes du poulet avant des cuire? Je sais pas, ma mère, elle faisait ça. Maman, pourquoi tu faisais ça? » Ben là, je sais pas, maman faisait ça. Puis on retourne 3-4 générations avant, et puis l'arrière-grand-mère, c'est parce que le chaudron était trop petit. Fait qu'on fait, on fait des choses sans vraiment le savoir. Parce que mon père faisait ça, parce que, tu sais, fait que c'est juste mettre à jour ces connaissances-là. Donc, les ancêtres, ils allaient chercher les algues à la mer. Parce que ici, quand il y a une grosse tempête, la tempête rejette énormément d'algues sur le bord de l'eau. Et puis, ces algues-là, ils servaient à nourrir le sol. Fait que je prends ça et puis je m'adapte. Je me dis, bon, maintenant, il y a ça qui arrive, mais il faut penser aussi au changement climatique, à l'environnement aussi. Hein. On est en permaculture, on pense à un tout, à un ensemble, pas seulement à mon petit mouvement que je fais là. Donc, les algues qui viennent sur le bord de la mer, si je vais les chercher, mais qu'elles sont plus en hauteur et qu'elles sont bloquées là par du bois de grève, des gros troncs qui ont été rejetés aussi par la tempête, ben cette algue-là, j'y toucherai pas parce qu'elle protège ma plage, elle protège mon sol de l'érosion. Si je l'enlève, mais moi, si je pars avec 3-4 sacs, c'est pas grave, mais si tout le monde part avec 3-4 sacs, il n'y en aura plus, donc mon sol ne sera plus protégé. Mais si la mer, elle arrive, puis elle me lance après une tempête, un 4 pieds d'algues sur toute la longueur, sur le bord de l'eau, ben celle-là, je me permets d'aller la chercher. Parce que de toute façon, je me dis, la ville, elle va envoyer des bulldozers, aller l'enlever parce que la plage n'est pas belle pour les touristes.
J'aime beaucoup comme tu l'expliques, parce que ça met vraiment en évidence que c'est aussi un choix par rapport au reste qui se passe. Si demain la ville venait plus les chercher, peut-être éventuellement que tu te reposerais la question autrement. Mais sachant que de toute façon, il va être sorti, devenir un déchet, tant qu'à faire, autant utiliser.
Oui. Mais là, il faudrait faire un travail avec les villes pour les inciter à travailler avec la population et au lieu d'aller porter ça au site d'enfouissement puis de créer de la pollution, ben de travailler avec la population puis de dire, bon, ben venez chercher les algues ou quoi que ce soit, mais peut-être pas directement sur la plage, je sais pas, c'est tout un travail à faire, là, mais il y aurait un travail de sensibilisation à faire de ce côté-là.
Et donc, tu fais quoi avec ces algues?
Ben j'ai des salles. Ben je laisse la nature les dessaler.
Comment on fait ça?
Ben, j'ai les étangs. Ben, si j'ai ramasse en automne, ben sous la neige, c'est important. Mais il faut pas qu'il y ait un plastique en dessous qui garde l'eau, parce que là, ils vont pourrir. Puis là, ça va sentir pas bon chez vous. Mmh. Puis là, les voisins, ils peuvent ne pas être contents. Mm-hmm. Aussi, il ne faut pas qu'ils pourrissent, il faut que l'eau circule, donc je peux le mettre directement sur le gazon si je veux aussi là. Puis j'ai fait dessaler, après ça j'ai mis en mulch dans le jardin. Okay. Si j'en ai pas beaucoup, je vais les utiliser dans mon compost. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que c'est le meilleur mulch parce que ou paillis, mm-hmm. parce que des feuilles, il y en a pas beaucoup en cause qu'il y a énormément de vent, donc les feuilles partent au vent tout le temps, parce que de la paille, il y en a pas. Parce qu'aller acheter quelque chose au magasin qui arrive de je sais pas trop où, ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce que j'ai localement? C'est sûr qu'il y a mon gazon que je peux couper, mais c'est les poules qui font le travail. Donc, moi, je me sauve ça. donc, j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai. Ben j'ai ce matériel-là, qui je le trouve génial aussi parce qu'il attire beaucoup moins les limaces.
Ah! T'es la première à avoir trouvé une mulch anti-limace.
C'est il n'est comme... pas anti-limace, mais si tu compares, tu mets des feuilles, de la paille ou des algues. Mais des algues, ça dépend lesquelles aussi. Là, il y a mm-hmm. plein d'algues. Là, présentement, chez moi, j'ai en train de dessaler. La mère nature est en train de dessaler pour moi. Trois types d'algues que j'ai, puis je vais faire une expérience, savoir lequel qui est moins pire pour les limaces. Mais actuellement, entre la paille et les feuilles et des petites algues vraiment fines qui ressemblent à des cheveux, j'ai moins de limaces dans ceux-là.
Et juste pour information, par souci que tout le monde l'ait en tête, les algues, ce sont des plantes marines, juste pour... Oui. Voilà, c'est qu'on se...
Qu'on ramasse vraiment sur le bord de l'eau après une tempête, que, tu sais, on ne va pas les chercher dans l'eau, c'est illégal. Mm-hmm. On n'ira pas les chercher quand ils sont stabilisés sur la plage parce que c'est, environnementalement parlant, pas correct. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est vraiment c'est un déchet. Mm-hmm. Lorsqu'elle représente un déchet.
Et puis, en Gaspésie, il y a aussi beaucoup de carcasses de crevettes, etc. Je sais que les agriculteurs ici utilisent énormément les carcasses de homards, pardon, pour les mettre dans leurs champs. C'est quoi ton avis là-dessus? Comment ça se passe par rapport à tout ça?
Je ne sais pas s'ils font encore, parce qu'il y a vraiment des odeurs. Je sais qu'il y a des centres de tri ou des centres de compostage mm-hmm. qui ramassent le compost. Il y a certains endroits en Gaspésie... Dans B, pas encore, mm-hmm. mais bientôt, on l'espère. Des centres qui font du compost ramassent les déchets marins des usines okay. pour pouvoir faire du compostage. Et puis là, ben, les premiers moments, tu as vraiment des odeurs. Donc, c'est contrôlé sous des dômes mm-hmm. et tout, là, parce que c'est... Où je l'ai vu, c'est sa côte nord. Là, j'ai vu sa côte nord, c'est vraiment éloigné. Là, il n'y avait pas de dôme, rien, mais je veux dire, aucune maison à je ne sais pas combien de kilomètres de là. Donc, c'est plus facile. Là.
Donc, mais, ils sont compostés d'abord.
Oui. Fait que ça fait du compost marin, ce qui donne un compost très, très riche en calcium. Mm-hmm. Mais ça dépend les endroits. Là, mais ça, c'est la source d'azote. Puis la source de carbone, ben certains vont prendre des déchets forestiers comme source de carbone. Mm-hmm. Puis d'autres vont prendre, malheureusement, de la tourbe de sphène là, comme source de carbone, dans les sacs qu'on achète. Là.
Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ça? Beaucoup en permaculture, on en parle entre nous, puis je pense pas qu'en permaculture, là, mais vu que tu viens de l'aborder, est-ce que tu veux...
Ouais. Il y a la perfection et il y a la réalité.
Tout à fait.
Et il y a l'équilibre aussi. la perfection, ça serait d'utiliser uniquement des déchets. Fait que ce que j'aime dire, c'est que le déchet d'un est la richesse de l'autre. Mm-hmm. Hein? Les déchets humains, c'est ça qui nourrit les déchets humains nourrissent le sol. Les déchets animaux, parce mm-hmm. que l'humain est un animal. Les déchets animaux nourrissent le sol, nourrissent les micro-organismes, est une richesse pour mm-hmm. ces micro-organismes-là de vie. Donc, les déchets marins, les déchets carbone, parce que c'est ça, c'est depuis toujours et partout sa planète, mm-hmm. Le problème, c'est de trouver du carbone. Mm-hmm. Il y a trop de CO2 dans l'air, mais il y a trop peu de carbone au sol. Mm-hmm. Puis on cherche tout le temps du carbone pour comme pays, on cherche du carbone pour le compost, il me semble que je passe ma vie à chercher du carbone. Tiens, puis on en manque. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment quelque chose à voir comment qu'on peut faire pour aller chercher ça, là.
Alors, juste pour le mettre en perspective aussi pour les personnes qui nous écoutent, le carbone, c'est le constituant principal de tous les êtres vivants. Donc, forcément, si on veut faire pousser des plantes, si on veut avoir des beaux arbres, etc., etc., il y a des notions de carbone qui rentrent en jeu, même si c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est juste pour expliquer pourquoi on est en train d'avoir cette conversation.
Oui, puis je veux dire, le carbone est très important. Quand le carbone, on le remet dans le sol, il reste stable. Il reste là, tu sais. Oui, ça crée de l'humus, mais c'est quand on fait du biochar, le carbone est stable, il reste dans le sol, il ne s'en va plus dans l'air. Trouver de l'azote pour le compost, c'est beaucoup plus facile. Donc, le déchet marin est un azote, le déchet de cuisine est un azote. Il y a plein d'azote, mais il faut l'équilibrer avec du carbone. Donc, le carbone le plus facile qu'on a trouvé au Québec, ce sont les tourbières. La mousse de tourbe qu'on retrouve dans tous les sacs qu'on achète dans tous les endroits, c'est la mousse de tourbe. La mousse de tourbe, elle a plusieurs milliers d'années. La mousse de tourbe qu'on retrouve au Canada, elle a été créée lors de la fonte des glaciers dans des lacs. Dans le fond, c'est un lac mort. C'est un lac qui avait ni d'entrée ni sortie, avec aucun oxygène, qui a créé, qui s'est acidifié, qui est extrêmement acide, puis qui est mort tranquillement, pas vite. Et puis, les premiers arbres qui ont poussé là-dessus, ce sont les mélèzes, qui adorent les sols acides et avoir les pieds dans l'eau. Et puis après ça, bon, ben, ça a créé de la mousse de tourbe. Puis, ils prennent ça, ils mettent ça dans des sacs. Fait que c'est un carbone facile. Et en passant, quand vous achetez de la terre noire, c'est le fond. C'est de la mousse de tourbe décomposée. C'est le fond du lac. Fait qu'ils vont creuser les lacs jusque dans le fond pour aller tout vider. Donc, ce n'est pas... c'est pareil comme le pétrole, là. Ce n'est pas
renouvelable, ce n'est pas écologique.
Oui. Fait que la terre noire, si on la laisse là, puis on y touche pas, dans quelques milliers d'années, ça aurait été du pétrole. Ouais. Elle aurait été modifiée. Ça s'en allait dans cette direction-là. C'est juste que la vitesse humaine et la vitesse de la planète n'est pas la même. Donc, la découverte de la mousse de tourbe a aidé beaucoup en agriculture, dans le sens qu'avant, on utilisait des terreaux pour faire les semis à la maison avec la terre noire et tout ça, qui amenait beaucoup de poids, trop d'humidité, énormément de maladies, de fonte des semis, il n'y a rien qui poussait. Et puis, le jour qu'ils ont utilisé de la mousse de tourbe, c'est tout léger, c'est tout fluffy. L'eau reste, mais pas trop, juste un peu. C'est comme la recette parfaite. Fait que quand on a la recette parfaite, on en met partout. Fait que là, on vient de créer un débalancement. Fait que là, si on ne veut pas avoir ça, qu'est-ce qu'on a? Fait que là, dans les gros composts, il y a les déchets de bois. De nous, ici, la Gaspésie est une forêt, était une forêt, qui devient de moins en moins une forêt comme partout sur la planète, hein, parce qu'on veut du papier. Mais les déchets de la forêt, bien, ils sortent. Et puis, au lieu de les laisser là pour que le carbone retourne au sol et puis... et puis nourrissent le sol, bien, on les sort. Et puis, donc, voici un côté négatif, mais le côté positif, on peut l'utiliser dans un compost qui s'en vient dans notre jardin. Mais là, si on veut acheter du compost et puis qu'on ne veut pas avoir de mousse de tourbe, bien, qu'est-ce qu'on a? Bien, ils nous offrent la mousse de coco.
Mais on l'a importée de l'autre bout de la planète et on se retrouve encore avec quelque chose d'assez illogique.
C'est ça. Ça s'appelle la mondialisation parce que les déchets de coco, c'est un problème dans le sud. Surtout dans les endroits touristiques, ils ont énormément de déchets de coco. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils mettent le feu, ça brûle mal. Moi, j'ai enseigné à des endroits comment faire du biochar avec le coco pour au moins le remettre au sol. Essayer de faire quelque chose. Mais les gens localement, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Donc, ils ne sont pas capables de mettre sur place une usine pour déchiqueter le coco puis ramener ça en agriculture. Fait que là, ceux qui ont l'usine, l'argent pour l'usine, ils veulent le vendre, leur coco. Fait qu'ils le vendent où? À ceux qui ont de l'argent. Ils sont où, ceux qui ont de l'argent? Ils sont ici. Mondialisation. Fait qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Faites votre compost chez vous, avec vos feuilles d'arbre à la maison. Mais... on est dans une société où ce que c'est difficile de faire ses propres choses ou d'être autonome à la maison. Donc, on préfère aller acheter les choses.
Et mais puis, on ne sait pas aussi. C'est le mélange de tout ça. C'est aussi, on a perdu des connaissances. Enfin, avec les générations, je me rends compte que nos grands-parents, en tout cas, avaient beaucoup plus de connaissances, quel que soit le lieu dans le monde. Hein, parce que là, je parle de mes grands-parents en Europe et en Algérie. Ils savaient faire du compost. Moi, mon père a toujours fait du compost chez nous. Parce que son père en Algérie en faisait et il vivait en ville. On parle de ville. Donc, c'était culturel. Donc, alors, ce n'est pas le plus beau compost du monde qu'on faisait, mais j'ai appris depuis l'enfance à le faire. Et il était vu comme un fou, je me souviens, en France, quand j'étais petite. Tout le monde critiquait. J'ai entendu.
Oui, il y a des bébites, ça pue, ça si, ça se
met en... Et ça n'a jamais été le cas. C'est ça qui est... C'est comme
j'ai jamais eu.
Oui, tout à fait.
Je dirais que le problème de l'humain... les gens faisaient le compost, faisaient le jardin, mm-hmm. parce qu'il n'y avait pas le choix.
Tout à fait.
Parce que sinon, moi, je me souviens de mon père qui me disait que lui, quand il était jeune, il ne pouvait pas aller jouer, il ne pouvait pas rien faire parce qu'il devait aider sa mère dans le jardin. Parce qu'il était pauvre, et puis si le jardin était...
Il y avait une question vivrière, là. Il fallait total. Vivre avec ça, et les quelques autres légumes, ou peut-être machin, on allait aller les acheter. Mais d'ailleurs, c'est très drôle, parce que ça me fait penser que souvent, quand les gens imaginent les potagers de leurs aïeux, ils pensent qu'il y avait des tomates, des poivrons, et je ne sais quelles plantes, alors que... En réalité, ça, c'était les plantes difficiles à faire, donc on les laissait aux maraîchers. Et puis, les gens avaient des jardins vivriers avec éventuellement du chou gras, du pissenlit, des gourgades. En fait, d'autres plantes qui sont nos fameuses plantes qu'on n'aime plus trop aujourd'hui, mais qui étaient en fait la ressource au quotidien. Et c'était les légumes compliqués qu'on achetait chez le maraîcher. Et aujourd'hui, tout le monde veut faire les légumes compliqués, c'est-à-dire poivrons, tomates, etc., et ça me fait rire, en fait, parce qu'on ne s'imagine pas que c'est plus le même potager.
Ah, plus total, total. Totalement, je veux dire, moi je pars des plans pour les jardins, mes jardiniers, pour les jardiniers, les jardins communautaires, et puis ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est des tomates, des poivrons, des concombres, c'est ce que je fais en grosse majorité. Fait que le kale, le chou, brocoli, ben ouais, brocoli, mais je dirais plus rutabaga, bok choy, c'est pour moi que je le fais, là. Mais j'en fais, j'essaie de l'offrir, mais ça finit dans mes jardins, parce que ça finit tout dans mes jardins, parce qu'il y a très peu de jardiniers qui vont en prendre.
Mm-hmm. C'est fou aussi de comprendre ça. J'en profite, vu qu'on vient d'aborder ça un peu de près. J'aimerais te proposer qu'on discute un tout petit peu de l'école de permaculture. C'est quoi cette école de permaculture en Gaspésie? Tu fais partie du comité aviseur depuis le début. Et récemment, là, depuis un mois, tu es une des premières employées. Nous avons au Québec des employés en permaculture dans une école de permaculture. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, ben dans l'histoire de Val d'Espoir ici, il y avait une école, mm-hmm. il y avait une école d'agriculture, ben tous les villages avaient une école, mais je veux dire ici il y avait une école d'agriculture à Val d'Espoir. Je suis pas bonne en histoire, mais je me souviens qu'à un moment donné, je me souviens plus quel gouvernement a décidé de tout centraliser les écoles et puis d'agriculture, et puis ils ont fermé l'école d'agriculture ici, ça s'est centralisé, je sais pas trop où, Rimouski, Bas-du-Fleuve. Peut-être plus loin, là, mm-hmm. peu importe. Fait que l'école, elle a fermé ici, mais quand même, il y a une historique d'école d'agriculture ici à Val-d'Espoir.
Val-d'Espoir qui touche Percé, juste
oui,
pour...
Oui, Val-d'Espoir fait partie de Percé, mm-hmm. la grande ville de Percé. Hein. Mm-hmm. Quand il y a eu la fusion des villes, ici en Gaspésie, là, je ne sais pas exactement Percé, mais Gaspé, là, d'un bout à l'autre, là, c'est 2 heures de route.
Oh my God! Ah oui, d'accord. Oui, oui,
la okay. ville de Gaspé, là.
OK, ouais.
T'sais, fait que c'est grand, mettons.
Ouais. Voilà.
Fait que Val d'Espoir, on est à une demi-heure à peu près de Percé.
Dans
là.
Les terres comparées au Rocher Percé. Voilà, oui. c'est notre référence touristique, le Rocher Percé. On est à une demi-heure du rocher.
Et pour les touristes, les amateurs de bière, on est dans le même village que Oval.
Voilà.
La super bière de Oval, c'est juste à côté. Donc, l'année passée, j'ai donné un atelier comment faire du compost thermique, un compost riche, mm-hmm. Riche, chaud, qui est merveilleux puis qui va nous être très utile dans les jardins cette année. Ben, j'ai pris la drèche de Oval. j'ai fait que le déchet d'un et la richesse de l'autre.
Ressource très, très locale, parce que là, on est à 2 minutes à pied.
Oui. Exactement. Donc, il y a eu une idée à un moment donné de refaire vivre les villages par mm-hmm. rapport aux maires de la région de la Gaspésie, une rencontre entre les maires. Qu'est-ce qu'on a de richesse ici? Qu'est-ce qu'on peut refaire pour faire vivre nos villages? Mm-hmm. Parce que les villages meurent, les villages se dévitalisent, il ne reste plus que des personnes âgées. Les familles ne viennent pas parce qu'il n'y a plus d'école, l'école est fermée, il n'y a plus rien ici. Il reste bureau de poste, il n'y a pas de dépanneur. C'est tout ce qui reste dans le village.
Parce comme que c'est vrai qu'au là. Québec, on a quand même le fantasme de la Gaspésie. Beaucoup de touristes viennent de l'extérieur et vont se faire un petit tour en Gaspésie. Mais l'été, en fait, c'est 2 à 3 mois par an qu'il y a une vraie activité, mais qui est touristique, qui n'est pas forcément une activité. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux sociaux, de logements, etc. en lien avec ça. Sans rentrer dans ces détails-là, c'est juste pour le mettre en perspective, parce que je pense que la majorité des gens qui sont venus en Gaspésie, qui nous écoutent, l'ont vu sûrement l'été à son joli potentiel, mais il y a les 8 autres mois.
Oui, mais passez en hiver, là, puis vous allez voir le nombre de maisons fermées. Mm-hmm. Avec personne qui vit dedans en hiver, c'est fou. Et combien de gens en Gaspésie cherchent des logements? Moi, ça faisait 2 ans que je cherchais une maison ou un logement ou quoi que ce soit, et j'étais sur le point, à un mois près, de retourner dans la cave chez ma mère, à Mont-Tremblant, là, de quitter la Gaspésie. Et puis mon chum, puis moi, on a vécu, ça fait 4 ans qu'on est là, on a trouvé rien pour vivre. Puis là, c'est une amie qui m'a dit « Mes voisines, ils vendent leur maison et qui étaient dans un prix abordable que j'étais capable de payer. Mm-hmm. » Et puis maintenant, c'est « OK, maintenant, je reste ici puis je suis stable. » Mais il n'y a pas d'endroit et il y a des maisons qui a quelqu'un qui vient vivre dedans pendant 2 semaines à l'année. C'est tout. Puis il n'est pas loué, il n'est pas utilisé par personne. Mm-hmm. C'est une folie. Mais je veux dire, quand on est touriste, on passe, on ne le voit pas. Mais je veux dire, c'est complètement fou. Mais ce qui fait que les villages, quand vous montez à l'intérieur des terres, vous voyez, il y a plein de villages dans B, il y a plein de villages qu'il n'y a pas de signal. Bien, ici, d'ailleurs, aussi, à Val-d'Espoir, il n'y a pas de signal téléphonique. Mm-hmm. Je veux dire, il y a un endroit, il faut que tu te retrouves dans... Ça me fait vraiment penser quand j'étais en Amazonie où il y avait l'arbre du téléphone. Fait qu'on montait dans un arbre, on s'assoyait dans cet arbre-là, puis c'est là que j'avais du signal. C'est, à l'école, c'est pratiquement pareil. Je veux dire, mm-hmm. dans le village, ici, c'est pratiquement pareil. Faut se retrouver... Bien, ici, c'est un balcon. C'est pas si pire. Hein? Mm-hmm. On s'assied dans les marches, puis on a du signal. Mais il faut aller s'asseoir dans les marches. Mm-hmm. Tu sais? Mais c'est la même réalité. On a un gros problème de communication ici aussi, là, de dire on est loin de tout. Donc, idée de revalorisation des villages, idée de l'historique de la place, parce que quand l'école est partie, il y a eu plein de projets agricoles qui se sont faits, des projets des jardins communautaires, des projets communautaires du village et tout, puis que on a un gouvernement qui finance à très court terme les projets ou par projet, ben beaucoup de projets ont fini par mourir par faute de subventions. Mm-hmm. Donc, la mairesse, avec d'autres groupes, d'autres personnes, ont dit pourquoi qu'on ne remettrait pas une école en place. Et elle et d'autres personnes dans ces réunions-là ont dit ben oui, mais la permaculture est à la mode, la permaculture est. Et on devrait faire une petite recherche de ce côté-là. Mm-hmm. Et puis, en faisant une recherche, on a aperçu que dans la francophonie mondiale, dans la francophonie, il n'y a pas d'école de permaculture. Ouais, on en trouve une en Angleterre, donc ça, c'est pas la francophonie. On en trouve, c'est sûr, en Australie, parce que ça vient de là. On en trouve, mais dans la francophonie, et pas au Québec, il n'y a pas d'école de permaculture. Mm-hmm. Il y a des projets, il y a des gens qui ont des fermes, il y a des gens qui en font leur métier.
Oui, il y a des grands centres de formation quand même. En France, il y a des groupes de gens qui donnent des formations et qui commencent à structurer. Mais là, la volonté d'une reconnaissance nationale, d'une reconnaissance internationale avec, on verra, certification ou pas, en fait, en tout cas, cette posture d'école pleine, non, je ne connais pas, en effet.
Après la recherche, ils ont fait, bon, ben on fait une école. Puis tant qu'à faire une école, le premier nom de l'école était une école d'agriculture innovante et de permaculture. Et puis, c'est un peu long comme nom. Et puis, pour raccourcir, on disait de toute façon tout le temps l'école de permaculture. Et puis, l'agriculture innovante, innover, c'est aussi s'adapter à la nature. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2023, l'innovation, c'est de s'adapter à la nature. L'innovation, oui. C'est ce qui devrait être de toute façon logique, mais ce qu'on a perdu dans les 50, 60, 70 ans, passé, depuis l'ère industrielle et la Deuxième Guerre mondiale, les chimiques et tout, on a perdu le contact avec la nature en agriculture. Mm-hmm. Donc, c'est innovant déjà là, la permaculture, fait qu'allons-y juste sur la permaculture. De toute façon, la permaculture englobe l'agriculture. Et on ne veut pas faire que de l'agriculture en permaculture, parce que je vous ai dit que c'est tout la permaculture, c'est tout, la fleur de la permaculture englobe tout. Donc, c'est ça. On a fait des premiers cours l'année dernière. Enfin, qu'on a parti ça avec un PDC.
Les fameux cours qu'on parlait tantôt de 10, 12, 15 jours, ça va dépendre,
Exactement, de design. Fait que dans le cours, on fait des activités pratiques. Mm-hmm. Donc, il y a une activité pratique avec l'eau qui est faite. Donc, on a déjà réglé un problème d'érosion importante dans le stationnement. Mm-hmm. Puis, tout à l'heure, il pleuvait, puis je regardais ça. Je ne sais pas si tu l'as regardé.
Non,
je n'ai
pas pensé.
Ça capte l'eau, puis on... Tu sais, un petit cours comme ça, puis ça y est, on capte l'eau, là. Et puis, on évite l'érosion. Mm-hmm. Dans le stationnement, ça leur coûtait un camion de gravelle à chaque année. La gravelle, elle vient d'où?
Ben oui, encore une
fois.
C'est
une destruction environnementale. Fait qu'un petit travail de rien, là, de quelques heures, on vient de régler l'achat d'un camion de gravelle à chaque année.
Donc, le premier PDC a été donné en septembre, et puis c'était avec P3 Permaculture, avec Graham, qui est quand même une personne très connue et très reconnue en permaculture au Québec et en Ontario. Donc voilà, enfin... On a commencé cette école avec une des stars du Québec. Yeah. Puis là, ça...
On a continué avec l'autre star du Québec.
Avec... Je ne suis pas tout à fait la même star au Québec. Et puis avec Guillaume aussi. Et puis, toi, tu es intervenue également. Sarah Anne aussi, pendant le PDC. Il y a cette volonté... J'en profite, mais il y a cette volonté, en tout cas dans l'enseignement de la permaculture. Tiens, qu'est-ce que l'éducation en permaculture? Je vais commencer comme ça, puis je vais te laisser la parole dessus, mais il y a cette volonté d'essayer de faire ensemble et de co-animer, co-faciliter, co-former, apprendre entre nous aussi. Puis je trouve que, voilà, c'est ça, le fait que vous ayez pu intervenir pendant le PDC de Graham, là, le fait qu'on a essayé de permettre à plusieurs personnes de contribuer et partager leur savoir...
Parce qu'ensemble, on a tous un savoir beaucoup plus riche que juste une personne. Mm-hmm. Parce que même quelqu'un qui va dire « ben moi, je connais rien là-dedans », oui, mais tu vois quelque chose que peut-être moi, je vois pas. Mm-hmm. T'sais, on dit pas que nos enfants nous enrichissent beaucoup, puis que nos enfants, avec leurs questions, des fois, nous amènent à voir des choses différentes. On apprend tous des autres. Mm-hmm. Fait que le travail ensemble nous permet d'apprendre énormément, et c'est ce que j'adore de la permaculture. Et beaucoup de gens font de la permaculture sans le savoir. Mm-hmm. Je veux dire, tout à l'heure, je parlais du groupe de maraîchers dans la baie qui ont créé une entreprise ou un réseau, tout simplement, de distribution de leurs produits en hiver. C'est de la permaculture. Ils ont décidé de travailler ensemble plutôt que de se chamailler. Ça, c'est mon territoire. Ça, c'est mon territoire. Mm-hmm. Je veux dire, c'est le travail ensemble. Il y a plusieurs projets. Dès qu'il y a un projet qui est plus communautaire, tout le monde communautaire, dans un certain sens, c'est de la permaculture. Mm-hmm. Parce que c'est faire attention à l'autre, protéger l'autre, s'entraider.
Oui, c'est en tout cas, on est vraiment dans une partie de la philosophie. Il y a cette volonté de faire ensemble et de changer de paradigme dans tous les cas. Oui. Dans mm-hmm. le monde communautaire, complètement. Hein, on a une grosse partie. Mm-hmm. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur l'école?
L'école est naissante. Ça veut dire que ça a été en gestion avec pendant un an de temps. On dirait que l'année passée, il y a eu des contractions là, pas mal avec le cours là, qu'il y a eu. Mm-hmm. Mais là, cette année, avec les employés, mm-hmm. avec la nouvelle coordination qui vient d'arriver, avec les employés, la mise en place, il y a une petite serre qui est installée, il y a un jardin qui va commencer. En fin de semaine, Christelle, elle nous a fait une belle formation de permaculture sociale qu'on a eu des cours l'automne dernier et ce printemps. On vient de mettre en place une aide biodiversité. J'ai appris énormément. Merci, Christelle.
De rien, mais moi aussi, j'apprends de vous, là, c'est
et
fou.
Puis, il va y avoir des cours qui vont se donner cet été, plus souvent. Donc, vraiment, je sens que là, c'est la naissance. Le bébé est né, là. Mm-hmm. Tu sais, il y a eu une grossesse difficile, peut-être, comme n'importe qui. Il y a eu quelques cours qui ont été donnés. Mais là, j'ai l'impression que là, le bébé est né avec les nouveaux employés, avec... et on va espérer qu'il grandisse bien, ce bébé-là. Puis on est plusieurs personnes à mettre plein d'énergie et...
Oui, il y a vraiment une belle équipe. Je suis vraiment heureuse de cette équipe-là. Alors ça, c'est mon regard extérieur. Mais je voulais aussi préciser un point que j'aime beaucoup de cette école, c'est qu'elle est, née, elle a été accompagnée par un comité aviseur dont tu fais partie, Sarah Anne fait partie, Guillaume fait partie.
Élise,
ben oui, bien sûr.
Puis il y a eu Dominique aussi un bon bout de temps.
Tout à fait. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a eu cette volonté de ne pas rentrer en compétition avec les autres permacultrices et permaculteurs du Québec qui en vivent partiellement ou pleinement de la formation, entre autres. Et donc, il y a des décisions telles que le fait de ne pas donner de cours en ligne parce qu'on sait que Graham, Wayne Roland, puis d'autres permacultrices et permaculteurs, je sais, pour moi, c'est eux que j'ai plus en tête, donnent des formations en ligne. Donc, essayer de ne pas tout à fait... en tout cas, prendre soin de ne pas rentrer en compétition avec les autres éducateurs et pas faire, pas prendre la place. Puis ça, c'est la mentalité de la permaculture, de tenter de faire ça.
Mais pour moi, c'est le gros bon sens.
Oui, mais
c'est évident.
C'est rassurant, je pense, pour nous. Enfin, là, c'est moi qui vais... Je fais un « nous » global, comme si je parlais au nom de toutes les personnes qui forment à la permaculture, mais c'est précieux. C'est précieux.
Oui, mais tu sais, peut-être que je le vois souvent dans les pays du Sud, ça, que les gens, ils manquent comme d'originalité. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne, fait qu'ils vont faire pareil. Soyons originales, allons combler les trous. Allons, tu sais, moi, quand je suis arrivée en Gaspésie, la première chose que... Je suis arrivée en Gaspésie parce qu'on m'avait engagée, j'arrivais de la Colombie, puis on m'a engagée pour partir une entreprise agricole. Fait que j'arrive dans un coin que je ne connais pas du tout. Et puis, la première chose, ça a été de voir, est-ce qu'il y a des agriculteurs ici? Je vais aller voir les agriculteurs. Je vais aller voir ceux qui sont là. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton territoire? C'est comment que tu fonctionnes? Et moi, je vais faire pas pareil.
Oui, ouais, c'est ça.
C'est quoi la clientèle que t'aimerais, toi, combler, puis que tu peux pas?
Oui, parce que chacun a ses forces et chacun a ses limites et chacun, comment on peut travailler ensemble? Ça me fait penser...
C'est quelque chose de totalement logique, là. Il y a tellement de besoins... différent, pourquoi faire la même chose?
Ben, ça me fait penser à Micheline, que j'aime beaucoup, qui a été aussi invitée lors d'un balado, qui m'expliquait... En fait, c'est elle qui est venue me rencontrer et me contacter il y a quelques années. Puis, en fait, sa démarche, c'est parce qu'elle voulait justement commencer à faire professionnaliser, on va dire, la permaculture, enfin, monter une entreprise en lien avec le fait d'accompagner des projets, etc. Et en fait, ben voilà, on lui a dit, il faut que tu observes ta concurrence. Puis elle est tombée sur Fertile, sur moi, puis elle m'a contactée en me disant, visiblement, t'es ma concurrence, on fait quoi? Puis aujourd'hui, on est amis, puis on commence à faire des projets ensemble. Et j'adore, parce que, enfin, il faut... J'adore. C'est des postures en permaculture qui sont super. La concurrence est ton amie, quoi. C'est comme...
Ouais. Ben, tu vois, l'humain passe d'un extrême à l'autre. On est très déséquilibré dans la vie, hein. Fait que l'extrême, l'humain avait besoin, lorsque l'humain a commencé à être un humain, hein, le Cro-Magnon avait besoin de l'humain autour de lui pour survivre. S'il n'avait pas été en groupe, ensemble, s'il n'avait pas travaillé en équipe, il ne survivait pas. Fait qu'on est parti de là à l'autre extrême du je me moi, c'est ma petite affaire, c'est ma petite famille, c'est mes petites choses, et puis les autres, plus que je les écrase, puis plus que je me remonte. Mais là, il est temps qu'on arrive à l'équilibre. À dire, on n'est pas obligé d'être tout le temps tout ensemble, mais comment qu'on peut faire pour trouver sa place sans écraser personne et puis même de s'entraider. T'sais, ça prend un équilibre. Puis sans cet équilibre-là, l'humain, ça ne marchera pas. T'sais, je veux dire, il n'y aura pas une longue vie, là.
Ouais. J'avais envie de tenter une dernière thématique, c'est la question du genre en permaculture. Ce balado, il est né justement de cette volonté d'aller chercher les femmes permacultrices ou proches de la permaculture pour les entendre, parce que je me rends compte, en tout cas de mon observation, je nous trouve pas vraiment visibles. Tout à l'heure, je parlais justement de Graham, de Wayne, qui sont un peu les permaculteurs connus au Québec pour plusieurs raisons et valables. Ce sont des hommes. On est où, nous? Pourquoi on ne sait pas qui on est? Quel est ton regard sur la question du genre en permaculture?
J'ai beaucoup de difficultés à mettre homme-femme. Pour moi, il y a plus des tendances masculines et des tendances féminines. Et tous les humains, on a du féminin et du masculin en nous. Donc, la tendance féminine est plus une tendance de protection de l'autre. Hein, la femme donne la vie, elle doit protéger la vie, son enfant, c'est elle, c'est une protectrice. Elle a tendance à donner, hein, je ne sais pas chez vous, là, mais ma mère, là, elle donnait tous les bons morceaux aux enfants et puis elle se gardait le reste. Donc, Donc, la mère, c'est tout pour les autres, c'est une protectrice. Donc, la femme, le côté féminin est une protectrice. Mon chum a un côté féminin très fort, mm-hmm. plus que moi, de ce côté-là. Je suis protectrice, mais je veux dire, en tout cas, mais, tu sais, ça, c'est un côté féminin. Le côté masculin est beaucoup plus sortir de la maison, aller de l'avant, foncer, aller chercher les sous à l'extérieur pour la famille, aller, tu sais, c'est plus, il bouge plus. Donc, dans une entreprise, qu'on entende plus parler, qu'il soit plus marketing, les hommes, c'est le côté masculin. Il y a des femmes qui ont ce côté masculin-là, de ce côté-là de faire du marketing, de se faire connaître et tout ça. Et il y a des hommes qui ont le côté très protecteur, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, puis ça, je parle pas de rien de sexuel, là, je parle d'un côté, c'est côté gauche-droite, c'est côté, on a tous les deux, là, mais ils sont plus ou moins balancés, tu sais, mm-hmm. équilibrés, mm-hmm. comme tout, hein, on a besoin d'équilibre.
Donc, de ce que j'entends, c'est que pour toi, bah, parce que qu'on le veuille ou non, quand on regarde qui écrit les livres en permaculture, qui donne des formations, en tout cas, c'est très flagrant en Europe, c'est flagrant au Québec, c'est flagrant dans différents endroits dans le monde. Y a quand même les femmes sont moins là. Et pourtant, moi, je me rends compte que petit à petit, parce que j'ai eu cette curiosité, je nous vois partout. Voilà. Donc, c'était...
Mais on... Oui, c'est ça. On est là. Mais moi, tu vois, je le vois pas, ça.
Ah ouais, OK.
Je le vois pas parce que je vois la richesse entre chaque, à l'intérieur de chaque personne.
OK, oui.
Pour moi, okay. C'est des personnes.
OK.
Uh-huh. Parce que... mais tu sais, si on lance là-dedans, je veux dire, la femme est plus... elle doit être plus à la maison, elle doit être plus... Mm-hmm. Parce que, en cause des enfants et tout, ce qui n'est pas mon cas, je veux dire, j'ai pas d'enfants, j'en voulais pas, je suis bien contente de ne pas en avoir eu. Et puis, moi, ça me permet d'avoir planté des arbres sa planète au complet, là. Tu sais, fait que moi, j'ai des enfants végétaux partout sa planète. Tu sais, c'est comme... c'est autre chose. Mais... c'est sûr que je regarde toutes mes amies qui ont des enfants, ils n'ont pas les mêmes possibilités, surtout les mères à la maison, mm-hmm. seules, ils n'ont pas les mêmes possibilités de liberté et de lancer une entreprise ou de travailler là-dessus ou de, mm-hmm. tu sais, que peut-être l'homme, mm-hmm. tu sais. On peut regarder de ce côté-là, on peut regarder, tu sais, il y a plein de choses qui font que, mm-hmm. mais toi, ton entreprise, tu t'oublies quand tu regardes les femmes, mais moi, je te revois toi et tu sais, t'es...
Mais en fait, c'est parce que c'est par ce constat que je me suis forcée à le faire. C'est-à-dire que mon entreprise n'aurait pas existé s'il y avait eu d'autres femmes. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais en fait, je me suis dit...
Vous avez brisé la glace.
Oui, et je pense que culturellement, de toute mon histoire de vie, on va dire que je viens d'une famille très machiste partiellement. Là. Enfin, ce n'est pas forcément mes parents qui étaient machistes, mais je viens d'une famille, la caricature un peu italienne, méditerranéenne, de tous les côtés, on va dire. Donc en fait, en tant que femme, de toute façon, j'ai été, toutes les femmes de la famille, notre parole n'avait pas beaucoup de poids, etc. Donc on a appris à quelque part crier, hein, ça s'entend, hein, je prends ma place. Et j'arrive au Québec, là, où d'un coup tout le monde écoute quand même les femmes. Donc j'ai même moins besoin de crier, on va dire. Et justement, je me dis, j'ai moins peur de me mettre en avant parce que, en tout cas, j'ai l'impression que culturellement, j'ai dû apprendre ça, culturel familial, je parle, hein, et que finalement, ça me donne une certaine force. Et oui, j'ai eu envie, et ce balado est une création pour voir ça, pour essayer de nous mettre en lumière, pour nous dire « Hey, venez !» Parce qu'on est co-responsable, à mes yeux, de pas prendre notre place aussi au Québec. Parce qu'au Québec, je trouve que, oui, il y a encore des inéquités de genre, etc., etc., mais c'est un des endroits au monde où l'équité de genre est le plus présente, quand même. Et donc, je nous trouve... C'est aussi pour ça que je me trouve très à l'aise de faire ce balado au Québec et de poser la question aux Québécoises, de leur dire « Vous êtes où ? On est où ?» parce qu'on peut se responsabiliser aussi, décider de sortir un peu de notre coquille et peut-être de notre... Des fois, je sais qu'on est nombreuses à avoir cette sensation d'imposture, parfois. Je l'ai souvent. Et je décide de dire ben, il faut que je sois humble, je sais ce que je sais qu'il y a des gens qui savent beaucoup mieux que moi, qui sont vraiment meilleurs que moi. Mais si je prends un peu cette place, et ben peut-être, voilà, si ça peut en inspirer d'autres et que je peux tirer du bras certaines, ben, tant mieux. Et puis voilà, enfin voilà, c'est un peu ça ma démarche.
Mais tu vois, moi je dis ma vision, et c'est parce que je suis québécoise, mais c'est vrai que je t'écoute et puis je me revois en Amérique latine, en Asie, où, tu sais, je dis, ça n'a rien à voir là.
Et oui.
La femme est l'esclave de son père et après ça l'esclave de son mari, je veux dire, puis après ça l'esclave de ses enfants. J'oublie ça là, je veux dire, rien à voir avec ici. Mais ce que j'expliquais moi dans ma vision, c'est vraiment beaucoup par la permaculture et par le dans ce monde là ici et ici au Québec. C'est on va ailleurs, c'est autre chose. Et puis peut-être que je veux dire, je le vois pas, mais c'est pas parce que je vois pas moi d'inéquité que je vois dans ce monde-là, et que pour moi la parole d'une femme est tout à fait égale à celle d'un homme. Moi, c'est la connaissance et c'est le sens de la personne et c'est le sens de la manière d'être. Ça veut pas dire que ça existe pas.
Oui,
c'est,
bien sûr.
C'est tout simplement moi comment je vois les choses. Fait que je fais pas de différence. Fait qu'aucun j'ai aucun jugement de ce côté-là. Mais encore là, il y a un côté positif du côté féminin, c'est de s'entourer d'eux. La femme, dans l'histoire, elle a eu besoin de s'entourer de sa famille, de s'entourer pour être capable de survivre dans un certain sens. Parce qu'avec les enfants, avec toute la réalité, si elle n'a pas ses parents encore aujourd'hui, je veux dire, la femme, si elle n'a pas ses parents ou si elle n'a pas un bon entourage autour d'elle pour s'aider avec les enfants, c'est extrêmement compliqué. Ce qui n'est pas un problème pour l'homme, mais je veux dire, pour le côté masculin. T'sais, parce que c'est encore là, j'aime pas mettre homme-femme, parce que je veux dire, il y a des hommes qui ont beaucoup cette sensibilité-là.
Tout à fait, oui, j'entends.
Mais c'est ça, je veux dire, puis toi, ton côté féminin t'amène à ça, à t'entourer, qui est une richesse. Puis après ça, c'est équilibré avec un bon côté masculin et être capable de défoncer des portes et puis faire bouger les gens avec une douceur.
Hein? Tout le temps!
Non, mais l'équilibre, ça amène ça. Ouais, hein? Ça c'est l'équilibre entre les deux a du pouvoir. Quand on est équilibré, on a tellement du pouvoir, là. Mais c'est un travail de tous les jours et de tous les instants, cet équilibre.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse. Je sais que chaque personne a sa vision et c'est vraiment ça que j'essaye de savoir, la réelle vision. Puis si tu me dis, eh ben moi, j'en vois pas des grands problèmes. Enfin, ça a été plus que ça, ta réponse. Là. Ben, ça me va aussi très bien. J'ai besoin de les entendre aussi, ces visions-là. Puis... voilà, c'était juste...
Fait continue, fonce, on t'aime. Et ton entreprise aussi.
En tout cas, merci beaucoup, Marie-Claude, puis pour ce partage, puis cette découverte de la Gaspésie et de la permaculture en Gaspésie.
Ouais, ben il y a de plus en plus. C'est notre manière de... D'après moi, la permaculture, c'est vraiment la voie du futur pour être capable de respecter la planète et puis qu'après ça, avoir un équilibre avec elle aussi, là. C'est vraiment le futur. Et puis, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais on va essayer quand même. Hein? Si on n'essaye pas... Moi, je dis tout le temps en agriculture, il y a une chose qui est certaine. Si on ne sème pas, on ne récolte pas. Fait que là, si on n'essaye pas...
On ne récoltera pas.
On ne récoltera pas non plus.
Ben, merci beaucoup.
Bye-bye.